Herbert George Wells, Le trésor dans la forêt. Le canot approchait maintenant du rivage. La baie s'ouvrait devant lui, et un sillage uni, rompant la blancheur du ressac qui battait un écueil, marquait l'endroit où la petite rivière se jetait dans la mer. Le vert plus profond et plus dense de la forêt vierge se dessinait sur le flanc de la colline que l'on apercevait dans le lointain. La forêt, ici, s'avançait presque jusque dans les flots. À l'horizon, si imprécise et si confuse qu'on les eût prises pour des nuages, se dressaient les montagnes pareilles à des vagues subitement frappées de congélation. La mer était calme, à part une houle très légère. Il faisait une chaleur torride. L'homme à la pagaie, sculpté, s'arrêta de ramer. Oh, « ça ne doit pas être bien loin d'ici, » dit-il en mettant sa pagaie dans le canot et en étendant les bras en avant. Celui qui l'accompagnait se tenait à la proue de l'embarcation et fixait la terre avec attention. Il avait sur ses genoux une feuille de papier jaune. « Viens-t'en voir un peu, Evans, » pria-t-il. Tous deux parlaient à voix basse et avaient les lèvres rudes et sèches. Celui qui s'appelait Evans s'avança dans le canot, oscillant jusqu'à ce qu'il fût assez près pour regarder par-dessus l'épaule de son compagnon. Le papier avait l'aspect d'une carte rudimentaire. À force d'avoir été déplié et replié, il était usé au point qu'il avait fini par se séparer en deux. Et le deuxième homme en tenait à deux mains les fragments jaunis pour les juxtaposer. On y devinait, plutôt qu'on ne les y voyait, les contours de la baie dessinés au crayon et presque complètement effacés. Ben « voici l'écueil, » dit Evans, en promenant l'ongle de son pouce sur la carte. « Voici l'embouchure de la rivière. Cette ligne qui s'arrondit et se tortille. C'est la rivière. Oh, Dieu que j'ai soif. Et cette étoile, c'est l'endroit. Tu vois cette ligne pointillée, dit l'homme à la carte. C'est une ligne droite qui part de l'embouchure de la rivière, qui va jusqu'au bouquet de palmiers. L'étoile se trouve à l'endroit précis où cette ligne coupe la rivière. Oh, il faudra que nous marquions la place, hein, lorsque nous pénétrerons dans la lagune. Je me demande, reprit Evans après une pause, ce que peut bien indiquer les petites marques qui sont ici. On dirait le plan d'une maison ou quelque chose comme cela. Mais ce que signifient ces petits traits qui partent dans toutes les directions, voilà ce que je n'arrive pas à expliquer. Et l'écriture, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est du chinois, répondit l'homme à la carte. « Naturellement, puisqu'il était chinois, » repartit Evans. « Mais ils l'étaient tous, » déclara l'homme à la carte. Les deux compagnons fixaient pendant quelques minutes leur regard sur la terre, tandis que le canot s'en allait doucement à la dérive. Puis Evans se retourna vers la pagaie. Ben, « ton tour de ramer maintenant, écoeur, » dit-il. Son camarade plia sa carte sans mot dire, la remit dans sa poche, dépassa Evans avec précaution et commença à ramer. Ses mouvements étaient lents et pleins de nonchalance, comme ceux d'un homme qui est presque à bout de force. Evans, les yeux mi-clos, regardait les coraux environnés d'écume qui se rapprochaient d'instant en instant davantage. Le ciel était comme une fournaise, car le soleil atteignait presque au zénith. Bien qu'il fût si près du trésor, Evans ne sentait pas naître en lui l'exaltation qu'il avait prévue. La violente émotion provoquée par la lutte qu'il lui avait fallu soutenir pour s'emparer du plan et le long voyage nocturne dans le canot sans provision, depuis la terre ferme jusqu'à l'île, lui avait, comme il disait, fait passer ça. Au bout de quelques instants, il s'assoupit. Il était encore vaguement conscient de la présence de l'île, mais la trame d'un rêve étrange s'entremêlait avec ses sensations réelles. Il revoyait cette nuit durant laquelle Hooker et lui avaient surpris le secret des Chinois. Il revoyait le clair de lune dans les arbres, le petit feu qui brûlait et les silhouettes noires des trois Chinois argentés d'un côté par les rayons de la lune et dorés de l'autre par les reflets du feu. Et il les entendait causer petit nègre, car ils venaient de provinces différentes. Hooker avait été le premier à saisir le sens de leur conversation. Elle avait poussé du coude pour lui faire signe d'écouter. Il y avait des fragments de conversation qu'on n'entendait pas et d'autres qu'on ne comprenait pas. Un galion espagnol venant des îles Philippines s'était échoué si malencontreusement qu'il avait fallu renoncer à tout espoir de le sauver. Et son trésor, enfoui dans la terre pour y attendre le retour des navigateurs, formait la genèse de leur histoire. Il était également question d'un équipage naufragé que la maladie déclinait et au milieu duquel éclataient des disputes contre quoi il fallait sévir et qui finissait par repartir avec ses embarcations pour ne plus jamais donner signe de vie. Puis Shang-Hi, où il y avait de cela un an seulement, était allé se promener dans l'île. Il avait par hasard découvert les lingots cachés là depuis 200 ans, avait déserté sa jonque et les avait enfouis tout seul, à nouveau, avec des précautions infinies et dans un endroit très sûr. Il insistait beaucoup sur la sûreté de l'emplacement. C'était un secret à lui. Et à présent, il désirait de l'aide pour retourner là-bas et les exhumer. Quelques instants après, on entendit le froissement de la petite carte qu'on dépliait, et le ton des voix s'abaissa au point d'en être plus que des chuchotements étouffés. C'était une belle histoire à écouter pour deux aventuriers anglais sans ressources. Et le rêve d'Evans le reporta aussitôt au moment où il avait empoigné Shang-Yi par sa natte. La vie d'un Chinois n'est pas sacrée comme celle d'un Européen. D'abord ardente et furieuse comme un serpent surpris, puis timorée, fourbe et pitoyable, la petite figure rusée de Shang-Yi prit dans le rêve d'Evans une prépondérance qui éclipsa tout le reste. Finalement, Shang-Yi s'était pris à ricaner d'un ricanement sinistre et incompréhensible. Tout à coup, ainsi qu'il arrivait assez souvent dans les songes, les choses prirent une tournure tout à fait désagréable. Shang-Yi, dans son galimatias, incohérent, baragouinait des paroles menaçantes, et dans son rêve, il voyait devant lui des monceaux d'or énormes dont Shang-Yi s'efforçait par tous les moyens de l'empêcher d'approcher. Il empoigna Shang-Yi par sa natte. Quelle grande brute que ce jaune! Et comme il se débattait, comme il ricanait! Ses proportions gigantesques devenaient plus gigantesques encore à chaque instant. Puis les monceaux d'or étincelants devinrent une fournaise ronflante et un démon formidable qui ressemblait d'une façon étonnante à Shang-Yi, mais qui avait une immense queue noire, et se mit à lui faire avaler les charbons ardents. Evans ressentit dans la bouche d'atroces brûlures, et un autre diable l'appelait par son nom. « Evans, Evans, vas-tu te réveiller, espèce d'engourdi ? Ou bien, n'était-ce pas plutôt la voix de Hooker ?» Il se réveilla. Ils étaient parvenus à l'entrée de la lagune. « Voici les trois palmiers, Ça doit être sur la même ligne que celle touffe de Buisson, lui expliqua son compagnon. Remarque bien cela. Si nous allons jusqu'à ces buissons et que nous piquions ensemble tout droit à travers la brousse, nous y parviendrons lorsque nous arriverons près de la rivière. Ils étaient maintenant à même de voir où s'ouvrait l'embouchure du cours d'eau. En voyant cela, Evans reprit un peu d'admiration. « Mais méchons-nous, mon vieux, s'écria-t-il, sans quoi, par le ciel, je serais forcé de boire de l'eau de mer. » En disant cela, il se mordillait les doigts avec impatience, sans quitter des yeux les reflets argentés qui brillaient parmi les rochers et les herbes vertes. Un instant après, il se retourna vers Hooker, et presque brutal. « Ah ! Tiens, passe-moi la pagaie, ordonna-t-il, tu n'en finis pas !» Ils atteignirent ainsi l'embouchure de la rivière. Quand ils eurent remonté un peu entre les deux rives, Hooker prit de l'eau dans le creux de sa main, y goûta et la recracha aussitôt. Plus loin, il fit un nouvel essai. « Oh, cette fois-ci, c'est potable » déclara-t-il. Et tous deux se mirent à boire avec avidité. « Oh, zut !» s'exclama soudain Evans. « Ça va pas, c'est vide de cette façon-là » Et se penchant imprudemment à l'avant du canot, il se prit à aspirer l'eau avec ses lèvres. Enfin, ils se retrouvèrent désaltérés, et poussant leur embarcation dans une petite crique, ils s'apprêtèrent à débarquer parmi la végétation touffue qui s'avançait jusqu'au-dessus de la rivière. « Mais nous allons être obligés de nous frayer un chemin là-dedans pour retrouver les buissons qui doivent nous servir de point de repère, » dit Evans. « Mais nous ferions mieux de contourner la pointe avec le canot, » suggéra Hooker. Ils revinrent donc en arrière jusqu'à la mer, puis longèrent le rivage jusqu'à l'emplacement où étaient les buissons. Arrivés là, ils sautèrent à terre, traînèrent le cabot léger assez sur le rivage, puis s'approchèrent de la jungle jusqu'à ce qu'ils fussent parvenus à un endroit d'où ils pouvaient voir les récifs et les buissons en ligne droite. Evans avait pris dans le canot un instrument indigène ayant la forme d'un L et dont la partie transversale était garnie d'une pierre polie. Hooker portait la pagaie. « À présent, c'est droit dans cette direction, » dit-il. Il faut que nous avancions jusqu'à ce que nous ayons rencontré la rivière, et ensuite on tâtera le terrain. Ils s'engagèrent au milieu d'un épais maquis de roseaux et de jeunes arbres, et tout d'abord ils ne progressèrent qu'avec peine, mais bientôt les arbres devinrent plus grands et le terrain qui les environnait plus découvert. Au rayon brûlant du soleil succéda bientôt une ombre bienfaisante et douce. Oh, « on a presque froid ici !» après la chaleur accablante qu'il a fait dehors. Oh, pourvu que nous marchions dans la bonne direction, soupira Hooker. Un instant après, ils virent loin devant eux une trouée immense lumineuse dans l'obscurité, à un endroit où les rayons blancs et chauds du soleil descendaient droit au cœur de la forêt. Là aussi, il y avait un tapis de plantes verdoyantes et de fleurs multicolores. Puis ils entendirent le bruit d'une chute d'eau. « Voici la rivière, nous ne sommes sans doute pas loin du but maintenant, » dit Hooker. Au bord de la rivière, la végétation était beaucoup plus luxuriante. De grandes plantes, encore innommées, croisaient entre les racines des arbres géants et dressaient vers le lambeau de ciel apparu de longues feuilles vertes en forme d'éventail. « Eh bien ?» demanda Evans. Oh, « Nous sommes légèrement écartés de la ligne droite, » déclara Hooker. « Fallait s'y attendre. » Il se retourna pour sonder du regard les profondeurs de la forêt silencieuse qui étendait son ombre fraîche derrière eux. « En explorant un peu le bord de la rivière dans un sens et dans l'autre, nous découvrirons sans doute quelque chose. »« Mais tu m'as dit, » commença Evans. Il a dit qu'il y avait un tas de pierres, dit Hooker. Les deux hommes s'entre-regardèrent un instant. Bon, essayons de descendre un peu, proposa Evans. Ils avancèrent lentement, regardant autour d'eux avec curiosité. Soudain, Evans s'arrêta. « Que diable est cela ? » s'écria-t-il. Hooker suivit les yeux la direction qu'il indiquait du doigt. « Quelque chose de bleu, » dit-il. L'objet dont il parlait leur était apparu au moment où ils arrivaient sur le haut d'une petite élévation de terrain. Alors il commença à distinguer ce que c'était. Aussitôt, il s'avança d'un pas rapide jusqu'à ce qu'il fût parvenu assez loin pour voir le corps qui appartenait à la main molle et au bras qui avait frappé ses regards. C'était la forme d'un Chinois étendu à plat ventre. L'abandon de la pose ne laissait aucun doute sur son état. Instinctivement, les deux hommes se rapprochèrent l'un de l'autre et se prirent à considérer en silence ce cadavre de mauvais augure. Il gisait dans une espèce de clairière. Auprès de lui se trouvait une bêche de fabrication chinoise, et à quelques pas plus loin, des pierres rejetées au bord d'un trou fraîchement creusé. « Il paraît que nous avons été devancés !» dit Hooker en toussant pour s'éclaircir la voix. Alors, tout à coup, Evans, pris d'un accès de fureur subit, se mit à jurer et à tempêter en trépignant sur place. Hooker devint très pâle, mais ne prononça pas un seul mot. Il s'approcha du corps affaissé, et il s'aperçut que le cou du mort était bouffi et pourpre, que ses mains et ses chevilles étaient enflées. « Pouah !» grommela-t-il avec dégoût. Et se détournant, il alla examiner de plus près l'excavation. Aussitôt, il poussa un cri de surprise et appela Evans qui le suivait lentement. « Mais espèce d'abruti, va ! Tu vois donc pas qu'il n'y a rien de perdu ? Le trésor est toujours là !» Puis il reporta ses yeux sur le cadavre du Chinois et le ramena encore une fois vers le trou. Evans courut à l'excavation. À demi exposé déjà par le malheureux, qui avait été si mal en controverse, frappé en plein travail, apparaissait un certain nombre de lingots d'un jaune terne. Il se pencha sur le trou et, déblayant la terre avec ses mains nues, s'empressa de retirer l'un des lourds morceaux du précieux métal. En faisant cela, une petite épine lui entra dans la main. Il arracha avec ses doigts la petite pointe fine et souleva le lingot. « Il n'y a que de l'or ou du plomb qui puisse peser un poids pareil !» déclara-t-il avec exaltation. Mais Hooker ne lui répondit pas. Il continuait à observer avec perplexité le Chinois mort. Ben, « Il a voulu rouler ses amis, » prononça-t-il. « Il sera venu ici tout seul, et quelques serpents venimeux l'aura tué. Ben, non, comment il a pu découvrir l'emplacement du trésor ?» Ivan se redressa avec le lingot entre les mains. « Que lui importait la mort d'un Chinois ?»« Ben, nous allons être obligés, » dit-il, « d'emporter cet or morceau par morceau jusque sur le bord de la mer et de l'y laisser enterrer un certain temps. » Comment allons-nous faire pour le transporter dans le canot ? Il retira son paletot et l'étendit par terre, puis jeta dedans deux ou trois lingots. Et au bout d'un moment, il s'aperçut qu'une seconde épine l'avait piqué. Voilà tout ce que nous pourrons emporter cette fois-ci, annonça-t-il. Puis, brusquement, avec une irritation bizarre, « Oh, ça, qu'est-ce que tu regardes ?» Hooker se retourna vers lui. « Ben, c'est plus fort que moi, » murmura-t-il, en indiquant d'un mouvement de tête le cadavre. « Il ressemble tellement !»« Bon !» s'écria Evans. « Mais tous les Chinois se ressemblent !» Hooker le regarda dans le fond des yeux. « Alors, quoi qu'il en soit, je tiens avant tout à l'enterrer. Je m'occuperai du reste ensuite. » « Fais pas l'imbécile, Hooker, » dit Evans. « Laisse donc cette pourriture tranquille. » Hooker parut hésiter. Ses yeux se promenèrent attentivement alentour sur la surface du sol brun. Je ne sais pas pourquoi, dit-il, mais j'ai peur. Ivan sourça les épaules. Mais ce qu'il importe de savoir, grommela-t-il, c'est ce que nous allons faire de ces lingots. Vaut-il mieux les enterrer à nouveau sur le rivage ou bien les transporter de l'autre côté du détroit avec le canot? Hooker réfléchissait. Ses regards hébétés errèrent d'abord parmi les hauts trous des arbres, puis vers leurs cimes feuillues qu'égayait le soleil. Mais le hasard lui ayant fait rencontrer à nouveau la forme bleue du chinois, il se reprit à frissonner. Alors, très attentivement, il se prit à fouiller des yeux les profondeurs grises qui se prolongeaient sous les arbres. « Mais enfin, qu'est-ce qui te prend au cœur ?» demanda Evans. « As-tu perdu l'esprit ?»« Eh bien, soit, emportons-leur d'ici, » décida enfin Hooker. Il prit entre ses mains les extrémités du col de la veste, tandis qu'Evans s'emparait des coins opposés, et à eux deux, ils soulevèrent ainsi la masse de métal. « Mais de quel côté allons-nous ? » s'informa Evans. « Vers le canot ?»« C'est bizarre, » constata-t-il un moment plus tard, alors qu'ils avaient déjà fait quelques pas. « Mais j'ai encore mal dans les bras d'avoir ramé si longtemps. »« Oh, je précise que ça me fait mal !» s'écria-t-il un peu plus loin. « Il n'y a pas à dire. Faut que je me repose. » Ils déposèrent le paletot. Evans avait la figure toujours pâle et de petites gouttes de sueur perlaient à son front. « On étouffe positivement dans cette forêt !» Puis c'est là brusquement un mouvement de colère irraisonné. « Mais qu'est-ce que tu fiches? Allez, aide-moi donc. Nous n'aurons pas couché là, j'imagine. T'as rien fait depuis que tu t'es mis à rêvasser à propos de ce maudit chinois. » Hooker regardait fixement la figure de son compagnon. Il l'aida à soulever le paletot, dans les plis duquel étaient les lingots, et ils se remirent en marche. Pendant une centaine de mètres environ, ils n'échangèrent pas une parole. Alors Ivan se mit à souffler avec peine. « Mais pourquoi dis-tu rien ? » demanda-t-il. « Mais qu'est-ce que tu as donc ? » repartit Hooker. Ivan trébucha, puis lâchant tout à coup un juron, il rejeta le paletot avec violence. Pendant quelques instants, il regarda Hooker en face, puis il se porta la main à la gorge. « Ne t'approche pas de moi, » dit-il. Il alla s'appuyer contre un arbre. Puis, d'une voix plus calme, « Oh, tout à l'heure, ça ira mieux. » Mais peu à peu, son bras se détacha du tronc auquel il le tenait, et il glissa doucement le long de l'arbre jusqu'à terre, où il resta immobile, ramassé sur lui-même. Ses mains se crispaient avec des mouvements convulsifs. Sa figure grimaça sous la douleur. Hooker s'approcha de lui. « Ne me touche pas ! Ne me touche pas !» protesta Ivan d'une voix éteinte. « Remets-leur sur mon paletot, te dis-je, remets-leur !» En ramassant les lingots, Hooker sentit qu'il venait de se faire une légère piqûre au pouce. Il regarda sa main et vit, plantée dans sa peau, une mince épine ayant peut-être 4 ou 5 centimètres de long. Ivan se laissa échapper un cri inarticulé et roula sur le dos. Hooker demeura pétrifié. Un moment, ses yeux dilatés par l'épouvante restèrent fixés sur l'épine. Puis il se retourna vers Ivans, qui maintenant suffoquait et semblait en proie à d'atroces souffrances. Il regarda encore à travers les fûts des grands arbres et l'enchevêtrement désordonné des lianes, l'endroit enveloppé d'ombres grises où l'on distinguait encore confusément le cadavre tout de bleu vêtu du chinois. Il songea aux petits traits dans le coin de la carte. Dans un éclair de pensée, il comprit. « Ayez pitié de moi, mon Dieu » murmura-t-il. Car les épines étaient semblables à celles qu'empoisonnent les diaques et dont ils se servent dans leur sarbacane. Il comprenait maintenant pourquoi Shang-Yi s'était montré si affirmatif au sujet de la sécurité de son trésor. Il comprenait maintenant la signification de son ricanement sinistre. « Bivens !» appela-t-il d'une voix angoissée. Mais Ivans était silencieux, immobile, les membres secoués seulement de temps à autre de soubresauts spasmodiques et horribles. Un profond silence planait sur la forêt. Alors Hooker se mit à sucer avidement le petit point rose qui était marqué sur son pouce, à sucer tant qu'il pouvait. Peu de temps après, il ressentit dans les bras et les épaules une douleur étrange et lancinante, et en éprouva de la difficulté à plier les doigts. Alors, ils se sentiront compte que, sucer davantage sa blessure, serait peine perdue. Il y renonça brusquement, s'assit à côté de la pile de lingots, et s'appuyant le menton sur les mains et les coudes sur les genoux, se prit à regarder fixement le corps convulsé, mais encore frémissant de son compagnon. Le ricanement sinistre de Shang-Yi lui revint à la mémoire. La douleur sourde montait peu à peu jusqu'à sa gorge et devenait petit à petit plus intense. Au-dessus de lui, à une grande hauteur, une brise légère agitait le feuillage et les pétales blancs de quelques fleurs inconnues descendaient doucement vers lui en flottant dans la pénombre. Herbert George Wells.